Vous avez les plans. Donc bonsoir à tous. Séance du jeudi 6 avril 2023. Dans le cadre de la réflexion que nous menons sur la question du châtiment, nous aborderons aujourd'hui la lecture du livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru la première fois en 1975, et dont le sous-titre est « La naissance de la prison ». Alors, Yann Mouton était venu nous parler de textes de Michel Foucault, qui se trouve regroupé dans un ouvrage qui a pour titre « Dit et écrit », principalement. Alors, ce sont des textes plus tardifs que « Surveiller et punir ». Les dits et écrits ont été publiés en 2001. C'est un recueil, en fait, de plusieurs textes. Bon, moi, je voudrais vous présenter « Surveiller et punir », qui, à bien des égards, est devenu un grand classique. Michel Foucault est peut-être, en France, aujourd'hui, le philosophe contemporain le plus important, le plus connu, avec Gilles Deleuze. Il y en a encore quelques-uns. Un moins connu s'appelle Gilbert Simondon. Mais bon, Michel Foucault est beaucoup plus connu. Alors, évidemment, la lecture que je vais faire aura ses limites. Elle sera sans doute très schématique. Et puis, je dirais que la fin du livre, alors qui est vraiment consacré à proprement parler à la prison, bon, je ne l'aborderai pas. Mais si vous voulez, on aura suffisamment d'éléments pour y réfléchir. Alors, il est bien difficile, bien sûr, de restituer toute la richesse des analyses de Foucault dans ce livre. Alors, je rappelle que Foucault est né en 1926, il est mort en 1984, très jeune. Alors, pour faciliter la lecture, je vous avais indiqué le plan de l'ouvrage, qui comprend quatre parties. La première, le supplice, avec deux sous-parties, le corps des condamnés, l'éclat des supplices. Ensuite, vous avez un grand chapitre 2, la punition, avec deux sous-parties, la punition généralisée, la douceur des peines. Ensuite, grand 3, troisième grand chapitre, la discipline. Enfin, il ne dit pas la discipline, discipline. Alors, deux sous-parties, les corps dociles, ensuite les moyens du bon dressement, et la dernière partie, prison, avec trois sous-parties, des institutions complètes et austères, ensuite illégalisme et délinquance, et enfin le carcéral. Voilà. Bon, c'est pour situer. Alors, dans la pratique, je vous dis, je n'aurai pas le temps d'aborder la dernière grande partie. Donc Foucault commence son ouvrage par deux extraits de textes. D'abord le récit de l'exécution le 28 mars 1757 de Robert-François Damiens, le dernier à avoir subi en France le supplice du régicide, après avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Et ce récit se trouve dans un journal de l'époque qui s'appelle la Gazette d'Amsterdam. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler en tout début d'année, lors de notre première séance. Et je vous ai même lu un extrait. C'est assez abominable. Alors, Damien a été, je rappelle simplement que Damien a été condamné à subir en place de grève, c'est-à-dire la place de l'Hôtel de Ville, à Paris, actuelle, une longue succession de souffrances terrifiantes. Ses bourreaux lui ont arraché la chair avec des tenailles, ils l'ont écartelé et ils l'ont coupé en morceaux pour ensuite jeter ces morceaux dans le feu. Et les choses ont été faites méthodiquement. Le deuxième extrait est très très différent. C'est un extrait du règlement intérieur de la maison des jeunes détenus de Paris, rédigé en 1838. Alors, je lis par exemple dans ce règlement, l'article 18. Article 18, levé. Au premier roulement de tambour, les détenus doivent se lever et s'habiller en silence, pendant que le surveillant ouvre les portes des cellules. Au second roulement, ils doivent être debout et faire leur lit. Alors, ce règlement prescrit donc l'emploi du temps des détenus, du lever jusqu'au coucher, en détaillant très précisément les actes qu'ils doivent accomplir et leur durée respective. Alors, se lever, s'habiller, faire son lit, aller à la chapelle, recevoir le pain, se regrouper en atelier, travailler, déjeuner, se rendre en classe, etc., etc., jusqu'au coucher. Et le lendemain, ça recommence. Alors, voilà deux textes très, 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 très différents. Le premier écrit en 1757, le deuxième en 1838. Alors, justement, ce que veut souligner ici Foucault, c'est le contraste. Le contraste qui existe entre ces deux documents. Et le contraste qui existe entre ces deux documents témoigne d'une rupture historique. C'est-à-dire qu'en moins d'un siècle, on est passé du temps des supplices à celui du règlement. La peine, en 1838, la peine n'est plus théâtralisée. Elle a cessé d'être un spectacle. Elle a perdu son caractère de châtiment. Châtiment destiné à faire souffrir le corps du condamné, comme c'est le cas du supplice de Damiens. Donc, le corps n'est plus accablé de souffrance, mais désormais, il est contraint et orienté dans le sens d'une conduite normalisée. Alors, il arrive bien sûr que, encore, hein, il arrive que dans les prisons, souvent, les corps soient maltraités et même battus. Mais ce n'est plus le but essentiel de la peine. Alors, voilà le problème. Comment passe-t-on d'une pénalité où le supplice occupe une place centrale à travers le corps du condamné, à la prison comme, je cite la formule de Michel Foucault, la prison comme pénalité de l'incorporel, expression qui va s'éclaircir. Eh bien, justement, c'est cette rupture qui intéresse Foucault et c'est ce problème qu'il va chercher à éclairer. Alors, le premier chapitre de la première partie, donc le corps des condamnés, présente la problématique qui va orienter toute la suite du livre. C'est pour ça que je dirais que c'est un chapitre très important. Je dirais que, à la limite, quand on a bien compris le premier chapitre, c'est beaucoup plus facile de suivre les autres. Alors, brièvement, je reviens sur les conséquences majeures de la disparition des supplices qui se fait finalement au début du XIXe siècle, puisqu'ils disparaissent au début du XIXe siècle. Alors, nous l'avions noté, la justice n'assume plus au XIXe siècle, elle n'assume plus, et elle assumera de moins en moins, la dimension de violence physique qui accompagne la répression du crime. Elle cherche à la cacher. Elle cherche à la cacher en la confiant à une administration séparée qui est l'administration pénitentiaire. Et non seulement elle dissimule la violence de la répression, puisqu'elle a tout de même une minimale, mais elle la dénie en se donnant l'objectif plus valorisant de la correction du criminel, plutôt que de la répression du crime. C'est-à-dire que on se donne comme objectif de rééduquer en quelque sorte le criminel pour lui permettre de revenir dans la société. Du même coup, l'objectif n'est plus la souffrance du corps, mais la privation de son droit à la liberté. Alors, vous le savez, la guillotine, qui est utilisée à partir de 1792, minimise la durée de souffrance du condamné, et encore des peines de mort, hein, bien sûr, jusqu'à 1980. Et par ailleurs, la présence auprès du prisonnier de surveillants, de médecins, de psychiatres, d'éducateurs, alors évidemment ça va se faire surtout au XXe siècle, eh bien la présence de tous ces experts est là pour montrer que la douleur physique n'est plus la cible du pouvoir de punir. Alors là, nous avons un premier texte sur la page 1 que nous allons lire ensemble, qui se trouve dans le premier chapitre. C'est très simple, c'est très clair. Je ne vous ai pardonné un extrait qu'on avait déjà lu, hein, j'ai pris celui-ci. Ne plus toucher au corps, ou le moins possible en tout cas, et pour atteindre en lui quelque chose qui n'est pas le corps lui-même. On dira la prison, la réclusion, les travaux forcés, le bagne, l'interdiction de séjour, la déportation, qui ont occupé une place si importante dans les systèmes pénaux modernes, sont bien des peines physiques, à la différence de l'amende. Ils portent et directement sur le corps. Mais la relation châtiment-corps n'y est pas identique à ce qu'elle était dans les supplices. Le corps s'y trouve en position d'instrument ou d'intermédiaire. Si on intervient sur lui en l'enfermant ou en le faisant travailler, c'est pour priver l'individu d'une liberté considérée à la fois comme un droit et un bien. Le corps, selon cette pénalité, est pris dans un système de contraintes et de privations, d'obligations et d'interdits. La souffrance physique, la douleur du corps lui-même, ne sont plus les éléments constituants de la peine. Le châtiment est passé d'un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. S'il faut encore à la justice manipuler et atteindre le corps des justiciables, ce sera de loin, proprement, selon des règles austères et en visant un objectif bien plus élevé. Bon, voilà un texte très, très clair, me semble-t-il. Et donc, si le corps n'est plus l'objet premier de la répression pénale, eh bien, c'est qu'elle a changé d'objet. Elle a changé d'objet, et désormais, elle va s'appliquer à l'âme. L'âme. Alors, ici, qu'entend-on par l'âme ? Qu'est-ce que Foucault entend par l'âme ? Au fond, c'est l'ensemble de la volonté, des intentions, des pensées, des dispositions et du comportement du criminel. Et là, regardez bien le deuxième texte, juste ensuite. Si ce n'est plus au corps que s'adresse la pénalité sous ses formes les plus sévères, sur quoi établit-elle ses prises ? La réponse des théoriciens, de ceux qui ouvrent vers 1760 une période qui n'est pas encore close, est simple, presque évidente. Elle semble inscrite dans la question elle-même. Puisque ce n'est plus le corps, c'est l'âme. À l'expiation qui fait rage sur le corps doit succéder un châtiment qui agisse en profondeur sur le cœur, la pensée, la volonté, les dispositions. Une fois pour toutes, Mably, un des grands théoriciens de l'époque, a formulé le principe que le châtiment, si je puis ainsi parler, frappe l'âme plutôt que le corps. Alors, de quel théoricien parle ici Michel Foucault ? Il le précisera par la suite. Ce sont ceux qu'il appelle les réformateurs, ceux qui veulent réformer le système pénal, à commencer par Beccaria. Hein, ceux qui veulent humaniser les peines, les rendre plus douces, et qui veulent surtout que la peine ait une efficacité dissuasive. Or, pour qu'elle ait une efficacité dissuasive, ça n'a rien de faire souffrir. Hein. C'est inutile. L'essentiel, eh bien, c'est de changer les dispositions de l'âme. Hein. C'est de permettre, au fond, aux prisonniers de changer d'état d'esprit, hein, pour pouvoir ensuite, évidemment, revenir dans la société. Voilà. Donc, c'est différent. À partir de là, donc, aussi, la définition du crime est profondément transformée. Car on ne juge plus, tant les actes délictueux ou criminels en eux-mêmes, que les circonstances des actes, c'est-à-dire l'ensemble formé par tout ce qui entoure le crime. J'entends par là la connaissance de la personne du criminel, le rapport entre le milieu d'où il vient, son passé et son crime, sa propre perception de son crime et l'évaluation supposée de sa conduite future. Alors ici, Foucault parle moins des théoriciens de la fin du XVIIIe siècle que de ceux qui vont apparaître surtout au XIXe et au XXe, hein, qui vont effectivement réfléchir sur ce qui fait qu'un homme devient criminel. Donc ce n'est donc plus l'infraction seule qui est jugée, mais toute une série d'éléments extérieurs qui sont considérés comme déterminants pour évaluer la capacité du criminel à se réintégrer à la société. Ainsi, par exemple, les peines deviennent évolutives en fonction du comportement du prisonnier après l'infraction, pendant son séjour en prison. Et vous voyez que ces éléments viennent par conséquent se surajouter, ils surajoutent leur épaisseur à l'acte en tant que tel, c'est-à-dire au crime qui a été commis. Au point que le crime finit par n'être plus que l'occasion de manifester une âme criminelle. Au fond, le crime révèle une mauvaise disposition qu'il va falloir corriger. Hein, c'est ainsi qu'on réfléchit. Alors, le jugement pénal, lui aussi, change d'objectif. Juger ne consiste plus tant à sanctionner une infraction à la loi qu'à contrôler un individu dangereux pour la société. On n'interroge plus seulement la loi pour déterminer la sanction à appliquer, mais on réfléchit aux mesures à mettre en place pour éradiquer à l'avenir tout comportement criminel. Donc on pense en termes de prévention, de dissuasion, vous voyez. Il ne s'agit plus de faire expier à un homme son crime. À partir de là, le jugement pénal s'ouvre à toutes sortes d'expertises. Alors là, évidemment, c'est surtout au XXe siècle, hein, que ça va se faire. L'expertise psychiatrique, celle de l'anthropologie criminelle. Alors ça commence au XIXe siècle, avec des théoriciens dont on peut penser parfois qu'ils sont farfelus, hein, comme Lombroso et d'autres. Hein, bon. En tout cas, ça a beaucoup d'importance au XIXe siècle, on s'interroge beaucoup là-dessus. On essaie même, il y a même un théoricien qui croit pouvoir déceler des dispositions criminelles à la forme du crâne. Hein, c'est le genre de théorie qui existe. Alors le système judiciaire devient ainsi un appareil scientifico-juridique, dont le pouvoir ne s'applique plus principalement à ce que les individus ont fait, c'est-à-dire à leurs actes, mais surtout, ce système évalue ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être, il évalue leur individualité elle-même. Et là, regardons bien le troisième texte. Et la sentence qui condamne ou acquitte n'est pas simplement un jugement de culpabilité, une décision légale qui sanctionne, elle porte avec elle une appréciation de normalité et une prescription technique pour une normalisation possible. Le juge de nos jours, magistrat ou juré, fait bien autre chose que juger. Et il n'est plus seul à juger. Le long de la procédure pénale et de l'exécution de la peine fourmille toute une série d'instances annexes, de petites justices et des juges parallèles se sont multipliés autour du jugement principal, experts psychiatres ou psychologues, magistrats de l'application des peines, éducateurs, fonctionnaires d'administration pénitentiaire, morcelle le pouvoir légal de punir. Or, précisément, comme va le montrer Michel Foucault dans son livre, et c'est ça son objectif, il va s'agir, pour lui, je cite, c'est le texte numéro 4, deuxième paragraphe, objectif de ce livre, il va s'agir de faire une histoire corrélative de l'âme moderne et d'un nouveau pouvoir de juger. J'ai souligné l'expression. Une généalogie de l'actuel complexe scientifico-judiciaire où le pouvoir de punir prend ses appuis, reçoit ses justifications et ses règles, étend ses effets et masque son exorbitante singularité. Voilà ce que va faire ici, donc, dans son livre, Michel Foucault. Il va faire la généalogie de l'actuel complexe scientifico-judiciaire qui caractérise, au fond, aujourd'hui, le pouvoir de punir. Et c'est cette généalogie, réflexion sur les origines, c'est cette généalogie qui permettra d'expliquer donc le passage d'une expérience pénale à l'autre, c'est-à-dire, au fond, du supplice à la prison. Mais alors, comment mener à bien cette généalogie ? C'est-à-dire, comment expliquer le passage d'une punition qui cible le corps à une punition qui s'applique désormais à l'âme, puisque, semble-t-il, c'est ainsi qu'il faut présenter les choses. Alors, Michel Foucault indique que son étude suivra quatre règles générales. Je vais résumer son propos. On serait tenté de penser que la mutation du régime de la pénalité résulte tout simplement d'un changement de sensibilité, d'un progrès de l'humanisme. On passerait d'une répression cruelle à une répression plus douce, ce qu'on serait tenté de penser. Il y a un changement de sensibilité qui a fait que on s'est mis à réprimer moins sévèrement. Foucault rejette cette idée. Il rejette cette idée et il le montre, alors c'est dans la page 31, là je n'ai pas photocopié, il montre que, et là il va justement présenter sa méthode généalogique, et il va d'abord indiquer que cette méthode ne réduit pas, je cite, l'étude des mécanismes punitifs à leurs seuls effets répressifs, à leur seul côté de sanction. Parce que d'habitude, effectivement, c'est ce qu'on fait. Quand on réfléchit aux mécanismes punitifs, on souligne essentiellement leur aspect répressif, leur aspect négatif. Non, pour Foucault, il faut replacer ces mécanismes dans toute la série des effets positifs qu'ils peuvent induire. Et qu'est-ce qu'ils induisent ? Ils produisent un comportement, en fait. Alors, positif, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire simplement que ça produit quelque chose. Ces mécanismes punitifs produisent au fond, un comportement normalisé. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir, pas simplement ne voir que l'aspect négatif, c'est-à-dire l'aspect répressif. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, il remarque que les méthodes punitives ne doivent pas s'analyser comme de simples conséquences de règles de droit. C'est ce que font justement les théoriciens du droit à la fin du XVIIIe siècle, Beccaria, hein, c'est ainsi qu'il réfléchit sur la peine. Pour lui, la peine, le droit pénal, la peine, c'est l'application finalement d'une certaine conception du droit. Hein, vous avez d'abord les règles de droit, et les règles de droit déterminent au fond la manière dont on punit. Ça, c'est le raisonnement classique. Eh bien, Foucault considère que c'est une analyse insuffisante. On ne peut pas envisager les méthodes punitives comme des simples conséquences des règles de droit. La punition, c'est avant tout une technique de pouvoir. Et cette technique de pouvoir, elle a toujours pour cible le corps. Elle a toujours pour cible le corps, quelle qu'elle soit. Et page 31, Foucault parle d'une technologie politique du corps. Il parle d'une technologie politique du corps. C'est-à-dire que la punition, finalement, elle relève d'une technologie politique du corps. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, il y a une contradiction. Apparemment, il y a une contradiction. Parce que d'un côté, il veut faire une histoire des techniques de pouvoir qui s'exerce sur le corps, pour en conclure ensuite que la punition moderne a pour objet d'emprise l'âme du condamné. Alors, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Alors non, justement, parce que là, il faut préciser encore à nouveau ce que Foucault entend par âme, et vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction. L'âme dont parle Foucault, ce n'est pas une substance métaphysique comme en parle la théologie. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut l'envisager, l'âme. Hein. Bien sûr, c'est pas une réalité spirituelle, si vous voulez. Hein. Non, encore une fois, l'âme, c'est un ensemble de dispositions subjectives qui résultent d'ailleurs d'une technique de normalisation. Ces dispositions subjectives, elles sont le produit. Elles sont le produit d'une technique de normalisation. Elles sont le produit d'une technologie punitive. Et donc l'âme dont parle Foucault, c'est l'effet d'une technique de pouvoir qui continue de cibler le corps du condamné. Seulement, de manière différente que lorsqu'il était question des supplices. C'est-à-dire que, quelle que soit la technologie politique du corps, on cible toujours le corps, sauf qu'il y a plusieurs manières de le cibler. Dans le cas des supplices, oui, là, on cible le corps, on le fait souffrir dans sa chair, hein, directement. Il s'agit essentiellement, en quelque sorte, de faire souffrir. Essentiellement, et faire souffrir au maximum. Dans le cas de la punition moderne, qui vise l'âme, il s'agit avant tout de faire adopter au corps un comportement normal, un comportement qui lui est prescrit. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de produire une disposition subjective chez le condamné qui lui permette d'adopter une certaine position de son corps, un certain comportement corporel. Donc c'est toujours le corps qui est en jeu. Vous comprenez ? Donc, le but de la punition moderne, en tant qu'elle est, pour reprendre l'expression de Foucault, une technologie politique du corps, le but de la punition moderne, c'est de disposer l'âme à mettre le corps en mouvement de manière appropriée. Et l'enjeu véritable, vous voyez, de cette technologie, eh bien, c'est d'assujettir l'individu condamné, c'est-à-dire de produire, au fond, son obéissance. Oui, mais on ne va pas produire son obéissance en le faisant souffrir. Hein. On va produire son obéissance en, je dirais, agissant sur l'âme, hein, en ciblant l'âme, c'est-à-dire en créant en lui une disposition qui lui permettra, au fond, de mettre son corps en mouvement de manière appropriée. Donc, pour le dire d'une autre façon, il s'agit en quelque sorte d'implanter dans le corps du condamné un ensemble de représentations, d'images de lui-même, de culpabilité, qui soit capable d'engendrer le bon comportement. Vous voyez ? Le bon comportement, celui, évidemment, que celui qui est visé par celui qui le punit. Alors, comme on le voit, donc, l'originalité de Foucault consiste dans une généalogie du système pénal moderne à partir des techniques du corps, à partir d'une réflexion sur les techniques du corps, et non plus, comme on le faisait auparavant, à partir d'une histoire des institutions, d'une histoire des représentations, parce que la manière traditionnelle de réfléchir sur la genèse du système pénal, eh bien, c'est de partir de l'histoire des institutions, de l'histoire des mentalités. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a eu une sorte de, je dirais, de progression morale, hein, de changement de mentalité, que effectivement, il va y avoir une transformation. Ou plutôt, c'est plutôt, les transformations se font au niveau des techniques du corps et elles induisent ensuite des changements dans les mentalités. C'est une, au fond, l'approche de Foucault est matérialiste. Alors, cette histoire, donc l'histoire du corps, est inséparable de l'usage politique de ses forces. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ce que montre Foucault, c'est que le corps est toujours inscrit dans des rapports de pouvoir. Et notamment, au XIXe siècle, dans la société industrielle qui émerge à cette époque, eh bien, le corps entretient des rapports étroits avec le système de production capitaliste qui est en train de se développer. Et on va y revenir. En amont de la production, des rapports de pouvoir sont nécessaires pour constituer le corps en force de travail. C'est ce qu'il va montrer. Et puis, en aval, l'appareil de production va normaliser l'activité de celui qui travaille par la répétition des tâches et en l'insérant dans une organisation, une division du travail qui lui assigne sa fonction. Donc, vous voyez, le corps est pris dans un réseau, hein, dans un système de production qui, effectivement, oui, il y a l'exercice d'un pouvoir. Et là, vous prenez le texte numéro 4. Alors, c'est celui qui se trouve en haut à droite. Pas ça. Là, hein, pour le côté. Mais le corps est aussi directement plongé dans un champ politique. Les rapports de pouvoir opèrent sur lui une prise immédiate. Ils l'investissent, le marquent, le dressent, le supplicient, l'astreignent à des travaux, l'obligent à des cérémonies, exigent de lui des signes. Cet investissement politique du corps est lié, selon des relations complexes ou réciproques, à son utilisation économique. C'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination, mais en retour, sa constitution comme force de travail n'est possible que s'il est pris dans un système d'assujettissement, où le besoin est aussi un instrument politique soigneusement aménagé, calculé et utilisé. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Donc, voilà. Donc, il s'agit de rendre un corps docile, en quelque sorte. De faire en sorte qu'il soit adapté à la tâche qu'on attend de lui. Et de manière efficace. À cette technologie politique du corps, donc à ces techniques du pouvoir, alors d'ailleurs, quand je dis technologie politique du corps, c'est pas seul, enfin, c'est le mot général, et on a étudié là deux types de technologies, celle qui passe par les supplices, et puis celle qui passe par les règlements, parce que Foucault va appeler ensuite les disciplines. Donc, à cette technologie politique du corps, s'articule tout un savoir, c'est-à-dire une connaissance des usages et des procédés qui permettent de l'assujettir. Et là, vous reprenez le texte, le quatrième texte en bas de la page. Hein. Je n'avais pas lu ce passage. Vous voyez, tout en bas. Un savoir, des techniques, des discours scientifiques se forment et s'entrelacent avec la pratique du pouvoir de punir. C'est-à-dire que ici, le pouvoir de punir, il s'accompagne de tout un discours, de tout un savoir, de toute une expertise, qui fait que le pouvoir est toujours en même temps un savoir. Hein. Et vous voyez que, comme on le voit, la réflexion sur la punition prend chez Foucault une toute autre orientation que celle qu'elle avait eue jusqu'alors. Au lieu de s'interroger sur la question du droit de punir, qui est la grande question philosophique classique, celle que se posent les théoriciens du contrat social, Thomas Hobbes, Rousseau, Beccaria, hein, c'est comme ça qu'ils posent la question, c'est celle du droit de punir. Qu'est-ce qui autorise l'État à punir, hein, c'est la question qu'ils posent. Eh bien, cette question, Foucault la laisse de côté. Il la laisse de côté et à la place, il va poser le problème d'un point de vue, je dirais, politique et technique. C'est-à-dire que le vrai problème, pour lui, c'est celui des modalités effectives du pouvoir de punir. C'est le problème des modalités effectives du pouvoir de punir. C'est-à-dire comment s'exerce-t-il ? Comment s'exerce-t-il ? Comment vise-t-il une efficacité ? De quelle manière, et de quelle manière évidemment aussi, se transforme-t-il au cours de l'histoire ? Donc la généalogie du pouvoir de punir repose alors, comme le dit Michel Foucault, sur, je cite, « sur l'histoire de l'investissement politique du corps ». Voilà. Au fond, faire l'histoire politique, finalement, faire l'histoire, pardon, de l'évolution politique du pouvoir de punir, c'est faire l'histoire de l'investissement politique du corps. Et c'est à l'occasion, justement, de la découverte du corps comme cible de la politique vise le corps, hein. Eh bien, c'est à l'occasion de cette découverte que Foucault construit un nouveau concept philosophique du pouvoir. Et là, vous lirez particulièrement la page 35. Et à ce propos, Foucault va parler, je cite entre guillemets, d'une microphysique du pouvoir. D'une microphysique du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par ce terme, il désigne cette nouvelle physique, ce savoir qui est lié à un pouvoir qui cible le corps et qui s'applique à lui dans le moindre détail des gestes qu'il accomplit. Vous voyez, cette microphysique, elle, finalement, elle est un savoir lié au pouvoir exercé sur le corps et qui s'interroge justement sur le détail de ses activités, sur le moindre détail des gestes qu'il accomplit. Et là, vous lisez le texte qui se trouve, le texte qui se trouve à droite, en, vous voyez, comme ça, et où il, est par, où il parle de microphysique. Or, l'étude de cette microphysique suppose que le pouvoir qui s'y exerce ne soit pas conçu comme une propriété, mais comme une stratégie. Que ces effets de domination ne soient pas attribués à une appropriation, mais à des dispositions, à des manœuvres, à des tactiques, à des techniques, à des fonctionnements. Qu'on déchiffre en lui plutôt un réseau de relations toujours tendues, toujours en activité, plutôt qu'un privilège qu'on pourrait détenir. Qu'on lui donne pour modèle la bataille perpétuelle plutôt que le contrat qui opère une cession. Ça, c'est la théorie du contrat social. Ou la conquête qui s'empare d'un domaine. Il faut en somme admettre que ce pouvoir s'exerce plutôt qu'il ne se possède, qu'il n'est pas le privilège acquis ou conservé de la classe dominante, mais l'effet d'ensemble de ses positions stratégiques, effet que manifeste et parfois reconduit la position de ceux qui sont dominés. Alors évidemment, il y a une critique allusive au marxisme ici, hein, pouvoir comme finalement étant possédé par la classe dominante. Ce pouvoir, d'autre part, ne s'applique pas purement et simplement comme une obligation ou une interdiction à ceux qui ne l'ont pas, il les investit, passe par eux et à travers eux, il prend appui sur eux, tout comme eux-mêmes, dans leur lutte contre lui, prennent appui à leur tour sur les prises qu'il exerce sur eux. Bon, alors évidemment, je reviens sur le texte. Donc, Foucault récuse la définition traditionnelle du pouvoir. En termes de propriété, le pouvoir, c'est ce qu'on possède. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on en parle. On le détient, on le possède. Et au fond, le pouvoir désigne traditionnellement une quantité de force que l'on détient soit par privilège, hein, le roi, soit en vertu de la légitimité tirée de l'élection. Mais on le possède, on le détient. Or, justement, pour Foucault, il ne faut plus concevoir le pouvoir de cette façon. Il n'est pas essentiellement quelque chose qu'on possède. Il faut le concevoir surtout comme un exercice. Le pouvoir, il est toujours en relation avec. Il est toujours en acte. Il s'exerce toujours du dominant vers les dominés et réciproquement. Et c'est une relation instable, qui ne cesse de bouger. Il y a une lutte perpétuelle, en fait, si vous voulez, dans l'exercice du pouvoir. Il est l'objet d'une lutte incessante. Et c'est pour ça qu'il ne cesse de changer, de se modifier. Et conséquence de cette redéfinition du pouvoir, le pouvoir ne s'exerce plus suivant le modèle de la loi. Ça, c'est la conception traditionnelle. Vous voyez, s'exerce plus selon ce modèle, c'est-à-dire selon le modèle négatif de l'interdiction, parce que quand on parle du pouvoir, on l'entend comme le pouvoir qui interdit et qui réprime celui qui a sanctionné l'interdit. Non, c'est pas comme ça. C'est plus comme ça qu'il faut seulement envisager le pouvoir. Et le pouvoir, il faut l'envisager, encore une fois, de façon positive, au sens où il est ce qui fait faire telle ou telle chose à ceux qui sont dominés. Il fait faire quelque chose à ceux qui sont dominés. En ce sens, le pouvoir traverse, hein, c'est le verbe utilisé par Foucault, il traverse, il affecte ceux sur qui il s'exerce. Il les affecte au sens où, dans leur conduite, ceux sur qui s'exerce le pouvoir, eh bien, reproduisent finalement les mécanismes qui concourent à leur propre domination. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça la force, enfin, l'efficacité du pouvoir, elle consiste à faire faire à ceux qui sont justement dominés ce qui permet d'entretenir leur domination. Vous comprenez le système? C'est-à-dire, en fait, d'une autre façon, mais évidemment, avec, il ne faut pas le dire de manière grossière, Foucault réfléchit à sa façon, sur une autre façon, enfin, sur une manière d'expliquer la servitude volontaire. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu grossier, c'est un peu grossel d'expliquer toujours le pouvoir comme quelque chose qui s'abat contre celui qui, finalement, en est la victime. Hein, comme si la victime est purement passive. Non, il n'y a pas de pure passivité de la victime. La victime, elle est prise dans les jeux de pouvoir et elle-même participe à sa propre domination. Vous voyez ? Et c'est ça, si le pouvoir est habile, il sait faire ça. Vous voyez ? Bon, alors, et donc voilà, ça c'est ce qui, je pense, doit être remarqué. Alors, on en arrive maintenant, parce qu'il faut tout de même en parler, au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de la première partie. Il a pour titre « L'éclat des supplices ». L'éclat du supplice. Alors, là, je vais être bref, parce que on l'a déjà vu. On en a déjà parlé lors de la première séance sur la question du châtiment. J'avais parlé de Foucault déjà. Hein. Mais je rappellerai juste ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite. Pour comprendre comment et pourquoi se produit donc une transformation radicale des techniques punitives à partir de la fin du XVIIIe siècle. Voilà ce qu'il faut qu'on sache pour pouvoir comprendre la suite. Alors, qu'est-ce qu'un supplice ? Rappelons la définition. Alors, ce n'est pas, comme on serait tenté de le penser, un déchaînement anarchique de violence, un déchaînement aveugle de violence. C'est pas parce que le supplice produit des souffrances épouvantables qu'il est l'expression d'une violence aveugle. Non, c'est une violence, mais une violence bien administrée, méthodiquement administrée. Il s'agit d'une pratique réfléchie par un pouvoir politique qui calcule précisément l'exercice de la violence. En ce sens, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, c'est une technologie politique du corps. Alors, le modèle du supplice le plus extrême, c'est celui qui est administré à Damien, le régicide. Qui est conduit de manière méthodique, selon des règles précises, jusqu'à produire une souffrance maximale par le moyen de l'écartèlement. Et on fait durer le plaisir. Hein, on ne met pas à mort immédiatement. Hein. Il faut d'abord que toute une série de souffrances pour arriver jusqu'à la mort. Hein. Donc, vous voyez ici que le supplice, c'est avant tout un rituel politique qui, d'une part, doit marquer à jamais le condamné pour rendre infâme aussi bien sa personne que sa mémoire. Ça, c'est première chose. Et puis, d'autre part, c'est un rituel politique qui doit manifester la force et la gloire du pouvoir qui punit. C'est-à-dire que le supplice, oui, a pour fonction de montrer l'éclat du pouvoir royal, en une démonstration de puissance. Il s'agit bien, pour le pouvoir de punir, hein, il s'agit bien, pardon, pour le pouvoir, en punissant, de montrer sa force, de démontrer sa puissance. Le châtiment lui permet de restaurer dans tout son éclat une souveraineté qui a été momentanément mise à mal par le crime. Et l'extrême violence du supplice, quand il s'agit bien sûr d'un régicide, n'a d'autre but que de manifester la supériorité du souverain sur celui qui a eu l'impudence de se mesurer à lui. Alors, voilà, résumé, si vous voulez, hein, je n'irai pas plus loin, ce qu'on peut dire, si vous voulez, du supplice. Alors, ici, je ne dirais pas que c'est un contresens, mais enfin, c'est une interprétation, dans une certaine mesure, qui est fausse. Les penseurs des Lumières, commencés par Montesquieu, ensuite Rousseau, enfin, et après Beccaria. Les penseurs des Lumières diront plus tard que l'atrocité des supérieurs, même pas plus tard, parce qu'ils sont contemporains, ils diront que l'atrocité des supplices est barbare. Ils dénonceront, voyez, les supplices comme une pratique barbare. Seulement, ici, faut préciser les choses. Qu'il y ait de la cruauté, c'est indéniable. Mais ce n'est pas de la barbarie. Ce n'est pas de la barbarie au sens où il s'agirait d'une violence instinctive, irrationnelle, débridée en quelque sorte, hein. Non, cette cruauté est savamment administrée pour montrer la toute-puissance du souverain. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, entre l'ère des supplices et puis celle de l'édification des prisons, dans toute l'Europe, se situe une période intermédiaire qu'il faut étudier pour comprendre le succès assez paradoxal de la prison. Et ce point est abordé au premier chapitre de la deuxième partie, qui a pour titre La punition généralisée. Et la deuxième partie, elle a pour titre, que je ne dise pas de bêtises, la deuxième partie, elle a pour titre une punition. Donc, premier chapitre de la deuxième partie. Chapitre a pour titre punition et la première partie, la punition généralisée. Alors, c'est une période charnière, fin 18e, début 19e. C'est une période charnière où fleurissent les discours critiques des réformateurs contre les supplices de l'Ancien Régime, dont la cruauté est précisément jugée barbare. Les réformateurs, on en a étudié un, c'est Beccaria, traité des délits et des peines, qui inspire d'ailleurs Voltaire. Enfin, il y en a d'autres, hein. Ils sont plusieurs. Et même, ils vont s'exprimer, parmi eux, il y a Robespierre, il y a Marat, qui sont des lecteurs fidèles de Beccaria. Et qui vont, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, chercher à obtenir la suppression de la peine de mort. Alors, parmi les réformateurs ou plutôt pour les réformateurs du XVIIIe siècle, la punition ne doit plus donner l'occasion d'un affrontement entre un pouvoir exorbitant et puis un peuple en colère. C'est-à-dire qu'ici, cet affrontement est risqué. Le spectacle des supplices risque d'engendrer des troubles sociaux. Parce que, on prétend démontrer la toute-puissance du monarque, mais en fait, on peut sanctionnant, en punissant de cette manière un coupable, on peut tout aussi bien susciter la colère du peuple. Vous voyez, c'est assez dangereux. Vous voyez, c'est assez dangereux. Et évidemment, les réformateurs considèrent que ces supplices éveillent, je vais employer un terme moderne, des pulsions saliques. Alors, à ce type de peine, que d'ailleurs les réformateurs considèrent comme une pure et simple vengeance, à ce type de peine, il faut substituer, selon eux, une punition réfléchie, un système pénal rationnel. Ils veulent rationaliser les peines. Alors, le premier qui a ouvert la voie en ce sens, c'est Montesquieu dans L'Esprit des lois, hein. Et Beccaria reprend en grande partie un certain nombre de développements de Montesquieu. Ainsi, est-ce qu'il condamne comme un exercice despotique du pouvoir de punir, ils opposent le principe d'humanité. Ils opposent le principe d'humanité. Je vais y revenir. Alors, on crédite les réformateurs d'avoir permis la mise en place d'un système pénal plus humain, plus doux. Je vous ai dit que pour Foucault, c'est une erreur. L'évolution de la pratique pénale au début du XIXe siècle ne relève pas d'un progrès moral, elle relève d'un nouveau chapitre dans l'histoire du corps, en tant qu'il est traversé par des rapports de pouvoir, et notamment de nouvelles exigences sont imposées aux individus en tant qu'ils sont appelés à devenir justement des forces productives. Alors, ça c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, disait Pierre, dont il faut parler. C'est un des facteurs qui va contribuer effectivement à modifier la conception de la pénalité. Donc, comme je disais tout à l'heure, développement de l'industrie, des manufactures, il faut fixer des ouvriers à l'appareil de production qui est en train de se développer, il faut les établir, et il faut les établir là où on a besoin d'eux, parce qu'au départ, au XIXe siècle, en Angleterre, par exemple, hein, ce sont des paysans hein, qui viennent dans les villes. Et puis, il faut donc les établir, et justement pour les constituer comme une force de travail. Et pour cela, pour les fixer, eh bien, il va falloir créer de nouvelles lois afin de lutter contre l'absentéisme, parce qu'ils ne sont pas énormément payés, ils sont tentés de s'en aller, etc. Donc, ils ont l'obligation, notamment, d'avoir avec eux un livret de travail. On réglemente les débits de boissons, on interdit la loterie. En fait, il faut leur imposer de la constance et de la régularité hein, pour les rendre productifs. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez tout un courant paternaliste des patrons qui font des cités ouvrières autour d'usines, etc. Siegfried, par exemple, hein. Enfin, ouais. Et dans l'est du pays, c'est pareil. Hein. Et de là, vous avez toute une série de mesures qui, sans être toutes absolument contraignantes, opèrent un partage entre le bon et le mauvais ouvrier et cherchent, au fond, un dressage du comportement. Alors, par ailleurs, là aussi, quelque chose qui change au XIXe siècle, l'augmentation de la production, des richesses, font jouer un rôle de plus en plus important à la propriété dans les mécanismes économiques. Donc, on va sanctionner le vol, on va sanctionner... Vous voyez, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Et à partir de là, le système pénal se focalise beaucoup moins sur les crimes de sang et beaucoup plus sur les délits qui menacent la propriété. Et puis, dernier facteur qu'il faut souligner, les méthodes de surveillance sont devenues plus rigoureuses, le quadrillage de la population est devenu plus resserré, et le contrôle de la criminalité est devenu plus efficace. Donc vous avez une conjonction de phénomènes qui conduisent à un système pénal moins violent. Et c'est cette conjonction de phénomènes qui conduit, au fond, à moins de violence dans l'usage des peines, bien davantage que l'émergence d'une sensibilité plus humaine. Alors, je dirais, oui, bon, est-ce que ça vaut la peine de regarder ce que disent les réformateurs ? Oui, parce que chez les réformateurs, il y a tout de même quelque chose de nouveau. Dans la réflexion. C'est-à-dire, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas par, je dirais, sentiment d'humanité seulement qu'ils vont chercher à combattre l'ancien système pénal, c'est surtout pour des raisons d'efficacité dissuasive, par souci de rationalité. Et ça intéresse ici, bien sûr, Foucault. Donc, il examine avec beaucoup d'attention, le discours des réformateurs, parmi eux, hein, Beccaria. Ils le citent d'ailleurs, souvent. Ils veulent un système pénal plus rationnel, plus humain. Mais en quoi consiste exactement l'humanité des punitions qui sont demandées par eux, hein ? Eh bien, comme on va le voir, cette humanité est surtout une affaire de modération et d'efficacité préventive, bien plus qu'une expression de la sensibilité. Ce que les réformateurs redoutent plus, ce sont les passions destructrices, les passions asociales, qui peuvent être exacerbées par la mise en scène de peines cruelles. Et donc les châtiments doivent, selon eux, rester humains, humains, avec effectivement des guillemets, afin de ne pas déclencher de désordre. Et pour résumer leur position, Foucault a une formule très simple, très claire, page 107, je ne l'ai pas photocopiée, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il, la manière dont il résume leur position. Le droit de punir a été déplacé de la vengeance du souverain à la défense de la société. Ce qui compte maintenant pour les réformateurs, c'est la défense de la société. Il faut se prémunir contre la dangerosité des criminels. C'est ça qui est important. Vous voyez ? Il n'y a plus de référence théologique, on ne se réfère plus à Dieu pour justifier une punition. Tout ça, tout le discours sacré, théologique, tout ça est mis de côté. Hein, il y a une laïcisation, comme on dirait ici, du droit pénal. Hein, ça, c'est tout à fait remarquable, si vous voulez, au XIXe siècle. Ils sont absolument hostiles, par exemple, aux peines infligées à... regardez le texte de Voltaire à Jean Calas, hein, au nom de Dieu. Toutes les peines qui relèvent, au fond, d'une forme d'inquisition, enfin... Tous les sacrilèges, le sacrilège, effectivement, ne regarde pas le droit pénal. Hein. Voilà. Il faut séparer le religieux du politique. Alors, ça, c'est l'esprit, hein, de l'humanisme des réformateurs. Donc, l'essentiel pour eux, c'est l'utilité publique des peines, leur efficacité dissuasive, la prévention des crimes. On a vu tout ça avec Beccaria. Donc, des peines d'une extrême sévérité, n'ont aucune efficacité, contrairement à ce qu'on croit. Et ce qui fait tort à la société, ce n'est pas la modération des peines, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Et la stratégie visée par les réformateurs est exactement inverse à celle des supplices. Celle des supplices qui était pratiquée sous la monarchie absolutiste. Au lieu de manifester la toute-puissance du pouvoir qui punit, il faut au contraire désormais effacer sa présence. Il faut effacer la présence du pouvoir qui punit. Il faut la rendre la plus discrète possible. Et pour que la peine ait une efficacité dissuasive, il faut parvenir à associer étroitement dans l'esprit des hommes, l'idée du crime et l'idée de sa punition. Il faut que les hommes établissent dans leur esprit un lien nécessaire entre tel crime et tel châtiment. Vous voyez ? Il faut qu'il y ait une proportion entre les crimes et les châtiments. Il faut que les hommes sachent à quoi s'en tenir s'ils commettent tel crime. Il faut que la punition apparaît comme l'expression d'une nécessité. C'est-à-dire qu'on reculera devant le crime si on se le représente systématiquement comme la cause du châtiment. Donc la punition doit se présenter à l'esprit du criminel potentiel comme un désavantage plus grand que l'avantage que peut procurer le crime, s'il est commis. Évidemment, ce qui est amusant, enfin, si je peux dire, c'est que ça reste un sujet rationnel, qui pèse le pour et le contre, en quelque sorte. Alors, c'est pas si simple. Donc la punition doit jouer surtout sur la représentation de la peine, bien plus que sur la répression du crime lui-même. Et le plus important, c'est que les hommes tentés par le crime craignent la punition qui s'appliquera à eux s'ils le commettent. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus intéressant, et c'est ce qui retient surtout l'attention de Foucault, pour concevoir une punition adéquate et efficace, il faut s'intéresser autant à ses effets sur la foule qu'à ceux qu'elle produit sur le criminel. Le public est important. On ne punit pas seulement pour éviter que le criminel ne recommence. On punit pour dissuader tous les autres qui seraient tentés de commettre le crime, et bien justement de le commettre. Le public. Et c'est pour cette raison que les réformateurs veulent des peines visibles. Des peines visibles. Des peines qui suscitent chez tout un chacun la conscience de la punition possible. Et dans cette perspective, la prison est très loin d'être présentée par les réformateurs comme le moyen unique et général de la punition, qu'elle va très vite devenir au XIXe siècle. Là, si vous lisez les réformateurs, jamais la prison n'aurait dû s'imposer. Alors, il propose plusieurs sortes de peines, mais l'essentiel, il y a une diversité de peines, mais l'essentiel, c'est qu'elles soient visibles. Qu'on puisse voir ce qui arrive à celui qui a commis un crime. À quelle peine il est condamné. Le spectacle de la peine est important. Et donc, justement, c'est ça qui ne va pas avec la prison, c'est que la prison, elle soustrait la peine à la vue du public. Et comment voulez-vous frapper l'imagination du public si la peine est soustraite à son regard? Alors, je cite quelques réformateurs. Beccaria, dans son fameux chapitre 28 du traité de l'Élysée des peines, où il parle de la peine des morts, bon, il refuse la peine de mort, mais il propose, lui, des travaux forcés pour les grands criminels. Mais des travaux forcés où ils soient exposés au regard des autres, au regard de tous. On vient visiter le dimanche avec les enfants, les hommes qui sont en train de... Alors d'abord, c'est utile pour la société, du travail gratis, hein. Ouais, pas rien, hein. Il n'y a peut-être pas de petits profits. Et puis en même temps, voilà, ils sont... En même temps, c'est bien parce que hein, ça édifie. Hein. Vous voyez ce qui peut m'arriver si moi je faisais la même chose? Voilà, je ne vais pas commettre de crime finalement. Bon. Et puis alors, le Pelletier de Saint-Fargeau, voilà, un grand nom. Vous voyez des noms, vraiment un grand homme, c'est un homme très important sous la Révolution, le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est un député de l'Assemblée constituante en 1791, qui est un grand juriste. Eh bien, le Pelletier de Saint-Fargeau propose que le peuple puisse visiter une fois par mois les condamnés dans leur douloureux réduit. Et vous allez voir, on va lire le texte. Alors, le texte, c'est page 2. Page 2. Lui qui est en haut. La publicité de la punition ne doit pas répandre un effet physique de terreur. Et elle doit ouvrir un livre de lecture. Le Pelletier proposait que le peuple, une fois par mois, puisse visiter les condamnés dans leur douloureux réduit. Il lira, tracé en gros caractères au-dessus de la porte du cachot, le nom du coupable, le crime et le jugement. Comme dans les musées. Et puis ensuite, regardez, cette lisible leçon, ce recodage rituel, il faut les répéter aussi souvent que possible. Que les châtiments soient une école plutôt qu'une fête, un livre toujours ouvert plutôt qu'une cérémonie. Alors pourquoi cérémonie? Parce que c'était ainsi qu'était envisagé le supplice, hein, un rituel. Là, ben, au fond, on va à l'école quand on va voir des prisonniers, enfin des condamnés qui sont condamnés aux travaux forcés ou au cachot, etc. On va à l'école. C'est au fond, voilà, la publicité des peines transforme le système pénal en école. Hein, à la vue des condamnés qui endurent leur peine, le peuple, au fond, s'instruit. L'esprit civique est renforcé. On devient un meilleur citoyen. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce que montre Foucault, c'est que les réformateurs vont jusqu'à imaginer l'utopie d'une cité punitive. Une cité punitive, au fond, on pourrait appeler ça un camp de rééducation. Enfin, sauf que les camps de rééducation, en général, ils sont à l'abri, hein, ils sont loin. Là, c'est une cité punitive où, je vous dis, on va le dimanche avec les enfants. Participer, on va voir effectivement ce qui se passe, comme on va aux zoos. Hein. Texte numéro 2, regardez bien. Celui qui vient après. Voici donc comment il faut imaginer la cité punitive. Au carrefour, dans les jardins, au bord des routes qu'on refait, ou des ponts qu'on construit, dans des ateliers ouverts à tous, au fond des mines qu'on va visiter. 1000 petits théâtres de châtiment. À chaque crime, sa loi. À chaque criminel, sa peine. Peine visible, peine bavarde. Qui dit tout, qui explique, se justifie, convainc. Écriteaux, bonnets, affiches, placards, symboles, textes lus ou imprimés, tout cela répète inlassablement le code. Des décors, des perspectives, des effets d'optique, des trompe-l'œil, parfois grossissent la scène, la rendent plus redoutable qu'elle n'est, mais plus claire aussi. D'où le public est placé, on peut croire à certaines cruautés qui, de fait, n'ont pas lieu, mais l'essentiel, pour ses sévérités réelles ou amplifiées, c'est que, selon une stricte économie, elle fasse toute leçon, que chaque châtiment soit un apologue. Voilà. Vous voyez? Alors, évidemment, c'est contre le vœu des réformateurs que la prison s'est imposée et a monopolisé le terrain pénal. Et si la prison s'est imposée aussi rapidement, d'ailleurs de façon spectaculaire, en quelques années tout de même, c'est ça qui est assez remarquable, si vous voulez, ce phénomène que la prison, elle n'existait quasiment pas. Eh bien, en quelques 20-30 ans, la prison s'est développée d'une façon incroyable en France et dans toute l'Europe. Elle s'est imposée comme le seul système pénal. Eh bien, pourquoi? Pourquoi justement elle s'est imposée? Eh bien, Foucault répond, elle s'est imposée en raison de la rupture introduite par l'avènement de ce qu'il appelle les disciplines. L'avènement des disciplines. Et c'est l'objet de son troisième chapitre. Alors, la naissance de la prison s'inscrit en effet dans une rupture historique. Qu'il appelle l'avènement des disciplines, rupture historique qui excède largement le champ du droit et des pratiques pénales. C'est-à-dire que si la prison va s'imposer, c'est parce que déjà les disciplines existent dans d'autres secteurs de la société, si vous voulez. Mais cette transformation, elle a affecté déjà pas mal de secteurs de la société, si vous voulez. Et c'est pourquoi, effectivement, la prison va s'imposer. Et vous voyez bien que ce que va dire Michel Foucault des disciplines, ça va au-delà de la question de la prison. Ça va bien au-delà. Donc, la prison ne surgit pas du discours réformateur, mais elle surgit de procédures plus tangibles, plus secrètes aussi, moins visibles, plus redoutables, plus redoutablement efficaces, et puis aussi très diffuses. Et qui ont déjà fait leurs preuves dans la société. Et ces procédures, bientôt, vont investir les grands appareils de l'État, à commencer par l'appareil judiciaire. Elles vont investir les appareils de l'État et elles vont transformer les règles de fonctionnement du pouvoir. Elles vont transformer profondément les règles de fonctionnement du pouvoir. Il va y avoir une transformation. Et cette transformation, elle n'a pas été décrétée. Elle s'est faite, vous voyez, je dirais, de manière assez insidieuse. Et elle a envahi, elle a proliféré. Alors ces procédures, Foucault les nomme par le terme de discipline. Discipline. Alors évidemment, là, il l'entend dans un sens très particulier. Les disciplines désignent, je vous donne une définition d'abord, après ça va se préciser, elle désigne un faisceau de pratiques qui sont à la fois savantes et coercitive, qui déborde largement le domaine carcéral, et qui sont, comme je vous l'ai dit, et qui sont déjà apparus dans d'autres secteurs de la société avant de s'appliquer au domaine carcéral. Alors, on pourrait le dire d'une façon plus simple encore, qu'est-ce que c'est que les disciplines, qu'est-ce que ça désigne les disciplines, de manière générale, une technique nouvelle de gestion des hommes. Une technique nouvelle de gestion des hommes. Un management, si je peux me permettre. Mais c'est un peu de ça. Alors, d'où viennent ces disciplines? D'où viennent ces disciplines? Ben, on en repère la trace au Moyen-Âge. On en repère aussi la trace parfois dans l'Antiquité, l'exemple des monastères, l'exemple des compagnies esclavagistes aussi dans l'Antiquité, ou bien vous avez aussi un exemple de discipline dans la Légion romaine. Toutes ces institutions reposent sur des systèmes disciplinaires. Mais attention, ces systèmes restent isolés dans les périodes antérieures. Au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Et il faut attendre l'âge classique, c'est-à-dire au fond du XVIIe siècle, pour qu'on assiste véritablement à une diffusion et à une extension des disciplines, au point qu'on peut dorénavant parler d'une ère disciplinaire. À partir de l'âge classique, on peut parler d'une ère disciplinaire. Mais surtout, les disciplines antérieures dont je vous ai parlé, le monastère, étaient très différentes de celles qui n'ont cessé de se répandre dans toute la société depuis l'âge classique. Pour prendre un exemple, les disciplines monastiques permettent le renoncement, la maîtrise de soi, reposent sur un ascétisme. Les disciplines qui s'impose partout progressivement depuis le XVIIe siècle, vise plutôt une meilleure utilisation des forces du corps, un usage plus efficace, un usage plus productif. C'est ça qu'elle vise. Et, comme je l'ai dit, on ne rencontre pas ces disciplines seulement dans les prisons, on les retrouve dans les collèges, dans les écoles, dans l'armée, dans les hôpitaux. Et bientôt, d'ailleurs, partout, justement, dans les ateliers. Alors, vous avez là un texte que je vous ai photocopié. Alors, je ne vais pas le lire. Je vais le parcourir avec vous. C'est-à-dire, je vais le reprendre d'une certaine manière en insistant sur certains points et puis en soulignant quelques phrases. Alors, c'est le texte qui se trouve, donc, page 2, qui commence par ces méthodes, etc., etc. Bon, on peut lire juste la première phrase, si vous voulez. Ces méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l'assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité, c'est cela qu'on peut appeler les disciplines. Bon, ensuite, après avoir dit ça, Foucault veut montrer la spécificité des disciplines. Il ne faut pas les confondre avec d'autres choses. Notamment, il distingue les disciplines de l'esclavage. Commence par là. L'esclavage suppose une appropriation du corps de l'esclave. Et l'esclavage procède par la violence. Bien souvent. Il obtient des effets utiles par la violence. Les disciplines n'ont pas besoin de ça. Elles se passent de la violence. Et elles ne supposent pas une appropriation du corps de celui sur lequel elle s'exerce. Ensuite, comme dit Foucault, les disciplines se distinguent de la domesticité. De la domesticité. Qu'est-ce que c'est que la domesticité? C'est un rapport de domination global. Le domestique, il est moi tout. Hein. C'est un rapport de domination global qui exprime surtout une domination capricieuse. Les disciplines, c'est pas ça. Discipline, c'est très précis. C'est une utilisation minutieuse des forces de celui sur lesquelles elle s'exerce. Et pas comme ça, n'importe comment. Donc, ensuite, les disciplines se distinguent de la vassalité. Bon, on peut passer la vassalité, c'est-à-dire qu'elle ne relève pas du rite, de l'allégeance, etc. Bon, elle se distingue aussi de l'ascétisme, c'était le cas des moines, hein. Bon, et elle se distingue de tout ça. Et nous en arrivons, si vous voulez, à une formule, alors qui se trouve vers la fin. Juste après le passage que j'ai souligné d'ailleurs, le moment historique des disciplines, c'est le moment où naît un art du corps humain qui ne vise pas seulement la croissance de ses habiletés, ni non plus l'alourdissement de sa sujétion, mais la formation d'un rapport qui, dans le même mécanisme, le rend d'autant plus obéissant qu'il est plus utile, et inversement. La formation d'un rapport qui, dans le même mécanisme, le rend d'autant plus obéissant qu'il est plus utile et inversement. Et puis, vous avez, si vous tournez votre page, vous avez encore d'autres formules qui me paraissent intéressantes. C'est la suite du texte après, hein, en haut. Il dit à un moment. Alors, vous voyez, bon, on peut même lire le texte là entier. Le corps humain entre dans une machinerie de pouvoir qui le fouille, le désarticule, le recompose. Une anatomie politique qui est aussi bien une mécanique du pouvoir est en train de naître. Elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour qu'ils fassent ce qu'on désire, mais pour qu'ils opèrent comme on veut. Avec les techniques, selon la rapidité et l'efficacité qu'on détermine. Il ne s'agit pas simplement de faire ce qu'on veut. Ça, la domesticité y arrive. Ça, l'esclavage y arrive. C'est pas seulement ça. C'est faire ce que l'on veut, mais avec des techniques, avec la rapidité et l'efficacité qu'on détermine. C'est-à-dire qu'au fond, une technique parvient à faire adopter un comportement réglé et minutieusement réglé par celui hein, qu'on domine. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, par exemple, avec la numérisation, on peut arriver à des choses fabuleuses à ce niveau-là aujourd'hui. Hein, on demande aux infirmiers d'entrer dans des process, dans des machins, enfin, on passe son temps à ça. Hein. C'est vrai qu'on peut dire que ce que décrit Foucault, ben, il n'a pas connu, mais avec la numérisation, ça s'est carrément développé, hein, considérablement. Alors, pour résumer, donc, pour l'instant, les disciplines, avec les disciplines, donc c'est un contrôle de la vie humaine dans ses moindres détails, qui tend à s'organiser partout dans les écoles. Alors les écoles, évidemment, il prend ici l'exemple des écoles des frères chrétiennes au XVIIe siècle. Jean-Baptiste de La Salle écrit un ouvrage justement sur les écoles chrétiennes où il montre comment elles doivent être administrées, comment il faut régler la vie des écoliers. Et c'est très minutieux, extrêmement minutieux, vous voyez? Les casernes, les hôpitaux, tout est réglé. Il y a un souci du règlement qui est fabuleux. Bon. Et le chapitre 3 du livre de Michel Foucault est consacré tout entier justement à l'étude de ce qu'il appelle les disciplines. Alors, là, il y a deux étapes dans ce chapitre. Il s'agit d'abord de montrer de quelle manière elle s'assure de la docilité des corps, hein, c'est ce qu'il dit, la docilité des corps, ça c'est le premier temps, puis ensuite il s'agit pour lui d'examiner ce qu'il appelle, entre guillemets, les moyens du bon dressement, les moyens du bon dressement, les procédures hein, qu'il faut mettre en œuvre pour produire des corps dociles. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail du texte ici, c'est impossible. Je peux pas, c'est vraiment, c'est très, 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 très riche, hein. Il y a plein de choses là-dedans. Et je crois, franchement, vous pouvez lire, y aller, hein. C'est pas. À partir du moment où vous comprenez la problématique, vous savez où il va, c'est beaucoup plus facile de lire. Alors, il s'efforce surtout de comprendre et de dégager les dénominateurs communs à toutes les pratiques disciplinaires. Voilà, quels sont les dénominateurs communs à toutes ces pratiques disciplinaires qui s'exercent dans des domaines très très variés, très très différents, qui n'ont rien à voir. Mais il y a des dénominateurs communs à toutes ces pratiques. Et c'est ça qu'il veut dégager. Alors, parmi ces dénominateurs communs, vous avez d'abord la répartition des individus dans l'espace. C'est-à-dire que toute discipline, toute pratique disciplinaire consiste à répartir minutieusement les individus dans l'espace. D'ailleurs, comment ? Eh bien, par la mise en place d'un lieu clos, l'exemple des internats, l'exemple des casernes, l'exemple des ateliers. Par une technique de quadrillage qui assigne à chaque individu un emplacement, puis, selon les cas, une tâche spécifique, ça c'est la division du travail, l'atelier, ou encore un classement. Chacun a un poste, il est classé, etc. Vous voyez ? Donc il y a une représentation des individus dans l'espace. Ça c'est la première chose. Ensuite, quel autre dénominateur commun à toutes les pratiques disciplinaires ? Une surveillance constante, donc qui s'effectue dans le temps. Un contrôle de l'activité. Et comment cela se fait-il ? Eh bien, non seulement par l'établissement d'un emploi du temps, mais aussi par une programmation des actes. Vous êtes programmé pour faire ceci, il faut que vous en rendiez compte. Et puis, de manière plus globale, par une gestion du temps des existences individuelles pendant toute la durée de la vie. Alors là, bon, il y a des exemples, je ne rentre pas là-dedans, mais lisez, vous allez voir, il y a plein d'exemples. Ça, c'est le deuxième point. Troisième dénominateur commun, la constitution d'une archive sur chacun des individus. C'est-à-dire qu'il s'agit d'inscrire l'individualité de chacun dans un immense réseau documentaire. Alors déjà, ça commence au 19e siècle, puis au 20e et au 21e. Alors là, ça n'a pas arrêté. Hein ? Alors, procédure d'identification, de signalement, de description, mise en circulation, des informations. Il dit pas QR code, mais on y pense, hein, évidemment. Alors que une société disciplinaire efficace, c'est la Chine. Voyez. Et attention, parce qu'on pourrait penser que bah, ce sont des sociétés totalitaires, mais il y a une tendance forte aussi dans les sociétés démocratiques. Hein. Donc le pouvoir disciplinaire, alors c'est ça aussi qui est assez intéressant. Vous vous souvenez du pouvoir royal avec les supplices, un pouvoir visible qui se montre et qui doit se montrer surtout par la violence de la peine qu'il exerce sur le corps du supplicié. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Le pouvoir disciplinaire, c'est un pouvoir invisible, anonyme. Mais un pouvoir invisible, anonyme, qui vise à rendre visibles les individus qui lui sont assujettis. Eh oui, vous n'avez plus rien à cacher. J'ai vu votre dossier. Je sais que vous avez eu telle maladie, etc. Oui, on peut vous décrire. Hein. Et puis, ça circule. Donc, évidemment, en théorie, on veut dire les individus sont des sujets de droit, on est en démocratie. Oui, d'accord. Mais en pratique, ils sont aussi le produit des technologies disciplinaires qui s'assurent de leur normalisation. C'est-à-dire de produire des comportements. Alors, apparemment, il y a là un étrange paradoxe. Parce que je suis en train de vous dire, enfin, c'est pas moi, hein, que les disciplines individualisent les hommes en les dépersonnalisant. C'est ça le paradoxe. Hein, il y a une individualisation de plus en plus poussée, puisque c'est une microphysique. C'est-à-dire que le pouvoir disciplinaire s'exerce dans le moindre détail, s'applique à chaque individu, en tenant compte de chacun des dossiers. Le dossier de l'un n'est pas exactement le dossier de l'autre, mais on a tout fiché. Bon, donc il y a une tendance à l'individualisation, puisque ça descend dans le détail, et en même temps, cette individualisation n'a rien du tout d'une personnalisation, elle est au contraire une dépersonnalisation. Vous êtes un cas. Donc vous voyez que le paradoxe n'est qu'apparent, parce que c'est justement en devenant l'ultime cible du pouvoir disciplinaire que l'individu perd les traits qui le caractérisent en propre, en devenant un corps docile. Oui, il ne faut pas croire que l'individualisation, l'enfermement de l'individu sur lui-même est une forme d'enrichissement. Ça peut être aussi une manière, justement, de l'assigner à une place. Vous voyez ? Et ce qui assure encore l'efficacité du pouvoir disciplinaire, c'est sa démultiplication, qui lui assure d'ailleurs son invisibilité. Je m'explique. Au lieu d'être concentré sur la personne d'un monarque, au lieu, vous voyez, d'être le pouvoir d'une personne qui apparaît bien visible, eh bien, et au lieu de s'exercer en bloc, comme ça, sur les individus, ce pouvoir se démultiplie grâce à toute une hiérarchie intermédiaire qui relaie ses objectifs. C'est-à-dire que pour s'exercer dans le détail et dans le quotidien, au plus près du terrain, comme on dit souvent aujourd'hui, au plus près du terrain, eh bien, le pouvoir central a besoin de maillons intermédiaires pour le faire fonctionner dans le moindre détail. Et quels sont ces maillons intermédiaires? Quelle est cette hiérarchie intermédiaire? Ce sont, par exemple, dans les ateliers, les contremaîtres, ce sont dans l'armée, les sous-officiers. Dans les internats, ce sont les surveillants d'internat. Enfin, vous trouverez pour chaque domaine, vous voyez, une hiérarchie intermédiaire. Donc tous ces cadres inférieurs qui sont justement sur le terrain, comme on dit, tous ces cadres inférieurs qui, en établissant des micro-pouvoirs, permettent à la machine de fonctionner. C'est-à-dire que vous n'avez jamais affaire, c'est un peu kafkaïen, effectivement, vous n'avez jamais affaire si, vous avez affaire au petit chef, quoi, celui qui est là pour faire fonctionner le système. Et vous-même, vous êtes investi et traversé par la logique du pouvoir. N'oubliez pas, vous n'êtes pas comme une oie blanche innocente. Non, vous êtes pris dedans. Et voilà le système que décrit... Alors évidemment, c'est une tendance que décrit ici Foucault. Et l'expression la plus accomplie du pouvoir disciplinaire... Eh bien, Foucault la voit dans le panoptique, le fameux panoptique, qui est imaginé par le philosophe anglais Jeremy Bentham en 1791. Un philosophe anglais très important, assez peu connu, assez mal connu, mais qui, je dirais, joue une grande importance. Une grande importance. Jeune collègue qui venait là, Armand Guillot, il est spécialiste de cet auteur. Alors, il nous avait fait d'ailleurs une conférence là-dessus. Et le panoptique, qu'est-ce que c'est que le panoptique? Donc, c'est un dispositif architectural qui doit, donc, selon Bentham, inspirer la construction des nouvelles prisons. Alors, je vais le décrire, mais ce que je voudrais, avant de le décrire, dire... Je voudrais dire que pour Foucault, ce dispositif architectural peut servir de modèle à n'importe quelle institution disciplinaire, que ce soit une prison, une école, un hôpital. C'est-à-dire que pour Foucault, ça, c'est un modèle qui peut aller bien au-delà de le seul univers carcéral. Alors, en quoi consiste, et après on va lire un texte, en quoi consiste ce dispositif architectural? Alors, c'est un ensemble qui associe une tour centrale dans laquelle se trouvent les surveillants. Donc, un ensemble architectural qui associe une tour centrale à un bâtiment périphérique tout autour, divisé en cellules dans lesquelles sont enfermés les individus. Essayez de vous imaginer, hein. Donc, au milieu, vous avez une tour, bâtiment périphérique, divisé en cellules, chaque prisonnier dans une cellule, et alors, les prisonniers sont enfermés, individualisés, puisqu'ils sont assignés à une place qui n'est pas celle des autres, et ils sont toujours visibles, visibles pour les surveillants, pour la tour centrale. Et évidemment, cette disposition les prive de toute communication possible avec les autres. Alors, le panoptique prémunit ainsi le pouvoir contre le caractère imprévisible d'un mouvement collectif qui échapperait à son regard. Parce que les foules, hein, c'est dangereux. Donc effectivement, là, vous divisez, hein, vous avez un dispositif qui permet donc de remplacer la foule incontrôlable. Hein, pour le pouvoir, la foule, c'est toujours ce qui lui pose problème. Donc, ce qui donc, permet donc de remplacer la foule par une multiplicité dénombrable d'individus. Vous voyez ? Faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement collectif, qu'il n'y ait pas de foule, et qu'on ait affaire plutôt à une multiplicité d'individus atomisés, séparés les uns des autres, et entièrement sous le regard du pouvoir. Et donc le principe sur lequel repose le panoptique, ce principe, c'est une dissymétrie radicale entre les individus qui peuvent être vus, mais ne peuvent voir ni les autres, ni le pouvoir qui se trouve dans la tour, le pouvoir qui les surveille. Donc, dissymétrie radicale entre les individus, et puis ce pouvoir lui-même, qui peut voir chacun d'eux sans être vu. Vous voyez ? L'individu enfermé dans sa cellule est absolument visible, mais ne peut rien voir, alors qu'inversement, le gardien posté dans la tour centrale est invisible et peut tout voir. Et alors, regardez l'efficacité redoutable du système. Ne sachant jamais s'il est surveillé ou non, eh bien, l'individu agit comme s'il l'était, si bien qu'il devient par son comportement l'acteur du pouvoir qui s'exerce sur lui, en s'auto-contraignant. Et à l'opposé, le pouvoir fonctionne sans être effectivement activé par quelqu'un. Il agit de façon permanente, même si, de facto, sa surveillance n'est que provisoire. Donc, vous voyez que c'est ça qui est remarquable. Vous avez un pouvoir qui ne se voit pas, qui n'est pas visible, qui est anonyme, qui s'exerce constamment, continuellement, à la manière d'une machinerie, hein, qui fonctionne de façon automatique. Alors, j'avais réfléchi à ça, puis je vais vous. Après, on va lire le texte, mais on va lire le texte et puis j'arrêterai. Disait comment. Vous savez, quand j'enseignais, les élèves qui trichaient, comment faire ? Parce que je vais rester ici à ma table, puis. Vous trichez ! Bon, non. Réfléchi, j'avais du Foucault. Je vais me mettre au fond de la classe. Et puis, celui qui se retourne pour me voir, il se dénonce. Et quand il est devant sa copie, il essaie de tricher, bah, il croit que je vais le regarder. Il croit que je suis en train de regarder. Vous voyez, redoutable. Technique redoutable. Comment éviter qu'il triche ? Eh bien, on fait fonctionner le panoptique. Ouais, bon. Alors, je termine là. La lecture, et ma séance par, c'est la lecture de ce texte, enfin, du 15 extraits de texte qui se trouvent page 3. Je crois qu'il faut les lire. Maintenant, vous allez comprendre, puisque je viens d'en parler. Donc, page 3. Le Panopticum de Bentham. Ouais, c'était le titre, hein, du livre, hein, de Bentham. Le panopticon. En grec, pan, c'est tout. Hein, bon, ce qui voit tout. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont deux fenêtres, l'une vers l'intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour, l'autre donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Vous voyez, ce n'est pas seulement prison. Par l'effet du contre-jour, on peut saisir de la tour, se découpant exactement sur la lumière, les petites silhouettes captives dans les cellules de la périphérie, autant de cages, autant de petits théâtres où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. Le dispositif panoptique aménage des unités spatiales qui permettent de voir sans arrêt et de reconnaître aussitôt. En somme, on inverse le principe du cachot, ou plutôt de ses trois fonctions, enfermé, privé de lumière et caché. Eh bien, on ne garde que la première et on supprime les deux autres. La pleine lumière et le regard d'un surveillant capte mieux que l'ombre qui finalement protégée. La visibilité est un piège. Et puis, je lis la suite, de là l'effet majeur du panoptique, induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir, faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action, que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l'actualité de son exercice pour faire des économies de surveillants. Comme ça, puisqu'ils ne sont pas censés savoir qu'il y en a. Même à la limite, il y a des jours où on peut très bien ne pas en mettre. Non, donc ça fait des économies. Alors, on poursuit. Donc, que cet appareil, donc même si elle discontinue dans son action, que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l'actualité de son exercice, que cet appareil architectural soit une machine à créer et à soutenir un rapport de pouvoir indépendant de celui qui l'exerce, bref, que les détenus soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs. Pour cela, c'est à la fois trop et trop peu que le prisonnier soit sans cesse observé par un surveillant, trop peu, car l'essentiel, c'est qu'il se sache surveillé, trop, parce qu'il n'a pas besoin de l'être effectivement. Pour cela, Bentham a posé le principe que le pouvoir devait être visible et invérifiable. Voilà. Voilà le fameux texte de Foucault. Alors, à partir de là... Non, il y a plein d'autres choses dans le texte, hein, mais si vous voulez, moi, j'ai préféré vous montrer la cohérence d'ensemble. À partir de là, vous lirez vous-même la suite. Tout ce qu'il dit sur la prison, il y a tas de choses. Voilà. À vos questions. Alors, bah, vous avez la parole. Vous connaissiez ? Non ? Pas du tout ? Des prisons ? Je pense, oui. Il leur donne des exemples. Hein. Elle parlait un peu plus fort parce qu'on entend mal. La prison de Danton était faite comme ça.
Moi, j'ai habité à côté.
C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une tour centrale et puis on voyait les prisonniers. Ah oui, c'est une surveillance efficace, hein, qui économise des moyens. Pas besoin de déployer un nombre considérable de surveillants pour que les prisonniers se sentent surveillés.
Et d'ailleurs, dans la construction des hôpitaux modernes maintenant, il y a l'unité des infirmières au centre,
ouais,
et toutes les chambres des patients autour.
Autour.
Et une seule infirmière au milieu, et les appartements à distance.
Et entendu que les patients ne peuvent pas voir la chambre du voisin. C'est-à-dire que c'est une tendance des sociétés modernes. Hein. C'est vrai que ça se décline de manière très différente d'un champ à l'autre, hein, d'un domaine à l'autre, mais c'est vrai que c'est ça.
Mais est-ce que c'est pas le passage d'une société paysanne à une société industrielle qui a promu ce...
Ça a largement contribué. Ça a largement contribué, oui. Il y a eu un besoin de quadriller la société. Ouais. Et de la rationaliser.
Et aussi le fait du passage de l'ancien régime, de la monarchie à la République, ça aussi, ça...
Alors, je dirais que pour Foucault, ça commence déjà avant, hein, dès le XVIIe siècle, hein, ça commence. Puisqu'il y a déjà, effectivement, il s'interroge beaucoup sur les écoles. C'est pas les écoles, c'est les écoles à trait, hein, avec des règlements extrêmement fixes, où tout est bien millimétré, hein, pour les élèves. Hein, et là, c'est pas l'école sur son putain, hein. C'est vraiment... Donc, c'est vraiment... Hein, l'école caserne, si vous voulez, hein, et les internats extrêmement c'est sûr. Donc il y a déjà une tendance lourde. Hein.
Mais le pouvoir monarchique était quand même plus difficile à établir que dans une république.
Oui, mais il y avait déjà avec la monarchie absolue une tendance à la centralisation et la rationalisation. C'est bien, on est en train de quitter le monde féodal. Où là, il y a une diversification tout de même, des instances de pouvoir, même il y a une certaine anarchie. Hein, c'est vrai que là-dessus, tout ne s'est pas joué avec seulement la Révolution française, hein, tout de même, à ce niveau-là. Oui ?
On nous présente souvent l'autodiscipline comme quelque chose de très positif. Or, ça semble être l'aboutissement subtil sur...
Oui, il faut se méfier, effectivement, de cette espèce de discours qui se veut spontané, où on fait l'éloge de la spontanéité, mais est-ce que c'est si spontané que ça? Tout à fait. C'est comme cette expression qui revient constamment aujourd'hui. Il faut que le pouvoir, qu'on gère au plus près du terrain. Oui, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Qui décide? Voilà, c'est une formule qui a l'air sympathique. Hein. En fait, c'est vrai que le pouvoir ne s'exerce pas, et en tout cas, il s'exerce de façon peu efficace quand il s'exerce de manière répressive. Ben, c'est sûr, c'est un échec. Donc, la meilleure façon d'obtenir effectivement les effets désirés, c'est de construire des conduites. C'est de produire des normes. Et tant entendu que des normes... En fait, aujourd'hui, ce que veut souligner Foucault, c'est que nous avons un discours traditionnel qui voit tout en termes de loi. Hein, nous voyons la loi. La loi, c'est ça qui est le plus important. Mais il montre qu'il y a une autre normativité que la loi. Ce sont les normes, justement. Les normes, ce sont des règles inculquées sans que ce soit de façon très explicite. Et qui nous fabriquent. Et qui fabriquent même notre rapport à nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'il veut montrer. C'est-à-dire que cet univers disciplinaire, il façonne notre subjectivité.
Ça veut dire qu'il aurait presque pu dire la même chose sans parler des prisons, mais qu'en parlant des prisons, il...
Alors la prison, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, l'idée de Foucault, oui, alors évidemment, on n'a pas vu, hein, mais la prison, elle n'est pas née d'une sorte d'évolution interne au système pénal. Voilà. Ça, c'est, on ne peut pas faire cette histoire-là. Ça, c'est ce que l'on serait tenté de penser. C'est que, bon, ben, il y a eu une évolution interne, une évolution, une histoire des institutions va nous expliquer pourquoi on est passé à la prison. Ben non. Non, la prison, on est arrivé à la prison par d'autres choses qui se passaient dans la société. Donc, le changement vient de l'extérieur.
Mais qu'est-ce qui fait qu'une société est de plus en plus normative ? Est-ce que c'est ça ?
Bah, productivité, efficacité.
Efficacité, contrôle. Ouais.
Contrôle, ouais. Ouais. La production joue un rôle considérable. Considérable. Donc, oui, bien sûr. Et on ne peut pas y arriver, enfin, par uniquement une répression policière ou par des lois, etc. Non. Pour ça que s'intéresser à toutes ces règles, toutes ces normes qui construisent justement les personnalités qui sont engendrées.
Par un système. Pour éviter la dictature, est obligé de passer par.
Ben, oui, mais ce que veut montrer Foucault, c'est que même dans une démocratie,
ouais,
ça existe.
Ouais. Oui, la démocratie est obligée de.
C'est-à-dire qu'une démocratie, elle est mitée de l'intérieur même, par système, d'une certaine façon, qui passivise.
Oui, ça se referme sur la dictature.
Alors non, parce qu'une dictature, c'est tout de même, un pouvoir tyrannique qui est violent et qui... là, c'est un système souple, ça. Hein, c'est, vous n'avez pas l'air d'être contraint.
Oui, vous avez l'air d'être contraint.
Sans savoir qu'elles
existent, qui nous surveillent. Voilà. Bah, les QR codes, la reconnaissance faciale, etc. Pendant la crise du Covid, il y avait quand même une sacrée tentation. Hein. C'était pas rien. Moi, j'ai vu un texte de sénateur qui vantait le modèle chinois. Hein. Yeah, bon, oui, bah, faut bien reconnaître que c'est efficace chez eux. Bon, c'est des inconvénients, mais enfin, finalement, par rapport à la situation. Alors d'ailleurs, ce que montre Foucault, c'est la lèpre a beaucoup joué. Un certain nombre de maladies, ont beaucoup contribué à renforcer ces phénomènes-là. C'est vrai que, en fait, on se dit, bah, c'est pour notre sécurité, c'est pas bien. C'est... La sécurité. Oui.
Mais il semble qu'ils n'utilisent pas, ou je n'ai pas entendu utiliser, le terme de conditionnement au sens pavlovien, disons.
Non, parce que le conditionnement, c'est un système d'explication un peu massif. C'est un peu déterministe. Là, c'est beaucoup plus souple. C'est même un façonnement qui se fait de façon plus subtile. Que décrit ici.
Dans Orange Mécanique, oui. Le film de Kubrick, oui. Est d'abord un livre de Burgess, le héros, si on peut dire, Alex, comme ça, est obligé de regarder des films de baston et de viol pendant qu'on lui a administré une substance qui fait vomir. Donc c'est du lourd.
Là, oui, c'est du lourd. C'est du lourd. Là, c'est beaucoup plus subtil. Oui, et c'est plus subtil, et puis c'est un système qui ne s'adresse pas à des exceptions, à des individus. Il s'agit de gérer des populations.
Toute une société.
Toute une société, surtout, bien sûr. Bien sûr. Donc, on vous fait entrer dans un univers de règlement. D'ailleurs, on se dit soi-même tout souvent, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas non plus un discours très très. Il n'y a pas de discours de la part. Non, comment il s'appelle Foucault. Il n'y a pas un discours un peu moralisateur. Dire, il dit c'est pas bien. Non, il décrit un fonctionnement.
Il y a des gens qui s'en mettent.
Oui, vous
dire. Dans les mots, il y a souvent, par exemple, pour, on dit qu'il faut créer du lien.
Oui.
C'est bien, ça veut dire aussi.
Oui, ça peut. Sauf là, c'est du lien qui ne vient pas d'une relation horizontale. Hein. Parce que là, vous êtes atomisé, individualisé, donc d'une certaine manière, ce qui facilite le pouvoir disciplinaire, c'est l'absence d'un collectif. Où les hommes puissent échapper effectivement à cette atomisation. Enfin, si j'ai bien compris. Hein donc, vous voyez. Non, mais vous avez des descriptions. Enfin, c'est vrai que, bon, mon propos a quelque chose de schématique, parce que je n'ai pas été assez dans les exemples, mais bon, il faudrait avoir du temps aussi. Hein. Et il y a des exemples donnés sur le fonctionnement des internats, sur la manière dont est organisé l'espace. Vous voyez, c'est très bien, ça. On n'a plus besoin de supplice. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a complètement disparu. Il ne dit pas que la punition, l'univers disciplinaire fait disparaître totalement le supplice. Il y a des restes. Hein. Mais c'est plus dominant, quoi.
Le supplice, maintenant, il a un autre objectif.
Quand
on parle de la torture.
La torture,
C'est dans un autre objectif, ça.
Comme
La torture, par exemple, pour faire parler quelqu'un.
Alors, à ce sujet, ce que montre Foucault dans la description des supplices, c'est que la torture, c'est déjà un châtiment avant-goût, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a tout un rituel de la torture, c'est pour effectivement extorquer les aveux, ça, on est d'accord. Mais alors, il y a toute une... C'est extrêmement complexe, hein. On ne torture pas comme ça, hein. Et il faut être professionnel, hein. il y a des degrés, etc. Non, mais... C'est incroyable. Et donc, il n'y a pas une séparation. Et pour nous, il y a une distinction entre l'instruction et puis le jugement. Le jugement, ça vient après. Là, il n'y a pas de cloisonnement aussi net. Et même jusqu'à la fin, on espère que celui qui va être supplicié avouera. Regardez, par exemple, dans l'affaire Calas. C'est assez remarquable. Quand Voltaire décrit... la mise à mort de Calas, les juges espéraient entendre Calas dire « je suis coupable ». Et jusqu'au bout, il dit non. Et il implore Dieu, enfin, bon, il dit, je crois qu'il dit même à Dieu de pardonner. Enfin, ça les déroute profondément. Alors nous, ça nous échappe, parce qu'on est très extérieur à leur façon d'envisager les choses. Mais c'est très, très, très perturbant pour les juges. Parce que normalement, si on s'y prend bien, en vous torturant, vous devez même avouer. Il faut bien reconnaître. Hein ? La vérité finit toujours par sortir. Bon. Mais là, non. Ah, c'est terrible. Donc, c'est vrai que nous avons des idées un peu frustes sur les choses. C'est-à-dire qu'on a un petit peu eu tendance à dire, bon, avant c'était la barbarie, puis après c'est la civilisation. Mais non, la violence. Non, je ne parle même pas en termes moraux. Hein. Je veux dire par là que même toute cette cérémonie du supplice, elle est hyper complexe. C'est pas. Pas simple. Oui, la torture, ça revient de temps en temps, hein. même dans des états de droit. Hein. Bah, à Guantanamo. Bon. Oui.
Vous disiez que il y a un encouragement à l'individualité, mais le collectif. Permis quand il encourage les normes.
Alors, j'ai pas dit qu'il y avait un encouragement. C'est-à-dire qu'on fabrique l'individu d'une certaine manière. on lui assigne une place, une fonction, un rôle, etc. La machine, en quelque sorte, lui assigne une place. Donc, ce n'est pas un encouragement, si vous voulez, puisque à la limite, c'est vous l'intérioriser, c'est tout. Hein ? Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que si on prend au sérieux l'image du panoptique, bah, cette individualisation, elle tend à faire que chaque individu se sent en quelque sorte enfermé dans un rôle, et puis il ne va pas au-delà, quoi.
Et s'il va au-delà, c'est que pour qu'il...
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il y a des résistances, bien sûr qu'il y a des gens qui vont s'écarter, bien sûr, tout ça. Bon, ceux qui mettent ça en place savent très bien que c'est comme ça, que c'est pas si simple, qu'on n'obtient pas une efficacité comme ça aussi simplement. Mais le but, c'est ça. Parce qu'il faut obtenir une efficacité et un comportement adéquat. Donc il faut normaliser les conduites.
Mais il y a même mieux que le panoptique, c'est l'œil de Dieu qui voit tout.
Ah oui.
Sans même que Dieu ait tout à fait besoin d'exister.
Bien sûr. Dans les éducations, certaines éducations chrétiennes, pour faire peur aux enfants, on disait Dieu te voit, hein, attention. Et tu vas chipper dans le pot de confiture, lui il te voit. Hein. Lui il te voit. Pour faire des cauchemars à des enfants, c'est génial. Bien sûr. Vous avez un très beau texte aussi de Platon. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais il y a quelques années. Le mythe de Gigès, la fable de Gigès, racontée par un sophiste. C'est un peu un autre système. Disons que c'est un berger qui découvre un anneau qui a le pouvoir de rendre invisible. Alors, étant invisible, il échappe au regard des autres. Et donc, en théorie, il peut faire tout ce qu'il veut. Et alors, évidemment, il s'adonne à tous les plaisirs, à tout. Enfin, et puis même, il finit même par entrer au palais royal, par séduire la reine et par tuer le roi. Voilà, évidemment, il prend le pouvoir, il devient tout puissant. Il échappe, hein, voilà, il peut exaucer tous ses désirs, même les plus infâmes. Et parce qu'évidemment, il est invisible, donc il échappe au jugement moral. Hein. Regarde, enfin, c'est autre chose, c'est un autre système. Mais à chaque fois, ce thème de la visibilité, de l'invisibilité, c'est fascinant. C'est fascinant. Et le pouvoir est efficace parce qu'il est invisible.
C'est pour ça qu'on n'obtiendra jamais la vérité sur les algorithmes qui nous
gouvernent. Eh oui, mais regardez, par exemple, dans l'éducation, ils sont en train de mettre un système algorithmique. Même aussi qui dirige la correction des professeurs. Ça veut dire que ça les perturbe. Hein. Alors c'est la machine qui contrôle. C'est une perte d'autonomie, là. Et dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Ça, c'est toujours présenté comme quelque chose qui va faciliter les choses. C'est pas vrai. Ça vous dépossède, en fait, des initiatives. Parce que c'est une régulation qui se fait... Vous êtes forcément serveur de la machine, quoi, en fait. Fatalement, vous pouvez pas faire autrement. Voilà, ça s'infiltre dans beaucoup de secteurs. Ah oui, oui, allez-y, allez-y parler de ça.
Parce qu'effectivement, on a l'impression que dans le open space, on a fait tomber les cloisons qui séparaient les individus, et finalement, les individus s'auto-surveillent, ils semblent qu'ils ont besoin de remettre les cloisons, parce que certains... Et il y a quand même, j'imagine, quelque part, l'œil qui surveille la totalité.
Oui. Si vous voulez, ça me fait penser aussi sur le problème de l'éducation, de l'école, par exemple. Kant disait très bien que, c'est un des aspects de la réflexion de Kant, disait que finalement, il est bien qu'il y ait une séparation entre le domaine de la famille et puis le domaine de l'école. Et quand la famille et l'école sont mélangées, l'enfant n'a plus l'impression de pouvoir échapper au regard de ses parents.
Regardez avec Frenot aujourd'hui.
Il n'a plus de vie privée où il peut mentir. C'est important qu'il puisse mentir. Non, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien le mensonge. Mais c'est important d'échapper au regard des adultes, des parents. De la même manière qu'il a besoin d'échapper au regard des enseignants dans la cour de récréation quand il est avec ses copains. Et là, il y a une espèce de confusion des genres qui, finalement, c'est une sorte de tyrannie douce qui s'effectue. On a besoin d'une vie privée. On a besoin d'échapper.
Est-ce que c'est pas biaisé par le fait que là, la surveillance est rassurante?
Oui. Elle se paye très cher. Elle inhibe beaucoup. Et Tocqueville déjà disait aussi ça. Elle inhibe énormément. C'est-à-dire qu'elle ne s'effectue pas. Bien, ce n'est pas une contrainte brutale, imposée, mais il y a une forme d'autoculpabilisation. On s'interdit d'eux. On s'inhibe. Parce qu'on a peur de ce que vont dire les autres, etc. On n'ose pas exprimer une opinion qui pourrait effectivement nous faire mettre à l'écart. Il y a un politiquement correct permanent. Faut le dire. C'est pas forcément très très positif au sens où ça permet pas à l'individu de se construire de manière véritablement autonome. Donc c'est vrai qu'il y a besoin d'un cloisonnement des espaces. Que quand tous les espaces sont réunis. Et évidemment, à ce moment-là, l'individu a l'impression de ne pas pouvoir échapper. Voilà. C'est vrai dans la vie de manière générale. C'est comme on raconte l'histoire de couple. Quand les couples ont l'impression qu'ils n'ont pas d'espace indépendant, ça peut être effectivement problématique. Quand ils n'ont pas. Enfin, c'est vrai que dans la vie humaine, on a besoin d'espaces séparés. Que tout ne soit pas mélangé, confondu. Que ce ne soit pas le même espace et l'unique espace. Ça fait partie d'une condition de développement, je me semble. C'est vrai pour les adultes aussi, ce que je veux dire. C'est pas seulement vrai pour les enfants. Bon, enfin, voilà. Ce qu'on peut dire, on peut peut-être en rester là et, comment dire, je vous dis au mois de mai, le 9 mai, et vous voulez te faire un croche-patte.